Article 1. La crise financière, la folie meurtrière de l'économie capitaliste. Depuis l'éclatement de l'actuelle crise financière, l'économie capitaliste mondiale ressemble plus que jamais à une gigantesque maison de fous. Chefs d'État et de gouvernement, ministres de l'économie du G7, dirigeants d'institutions financières et présidents de banques centrales s'agitent dans tous les sens pour tenter d'arrêter, ou du moins de circonscrire, la crise financière, sans y parvenir. Il suffit cependant que la courbe de la bourse, après plusieurs chutes successives, se remette à grimper pendant quelques jours pour que nombre de commentateurs annoncent que cette fois-ci est la bonne, que le krach est fini et l'effondrement dans l'immobilier américain digéré, que le pire est passé pour le système financier mondial et que la valse des milliards vers de nouveaux objets de spéculation peut recommencer. C'est finalement le canard enchaîné qui, avec cet humour qui lui est propre, a le mieux résumé il y a quelque temps l'efficacité de l'action de ces pompiers de l'économie mondiale qui se relayent pour circonscrire le feu qui se propage dans le système financier mondial. Citation. Depuis 6 mois, banquiers, experts et gouvernants nous expliquent que la crise larvée des subprimes est en voie d'être sur le chemin de la possibilité de finir par avoir des chances d'être contrôlés. Et voilà que, tout à coup, ils grimpent au rideau en avouant qu'ils ne contrôlent plus rien. Fin de citation. Comment rétablir la confiance sur les marchés financiers, à commencer par la confiance entre les grandes banques elles-mêmes ? Pendant qu'une multitude de réponses contradictoires à cette question alimente la cacophonie dans les milieux dirigeants et que les experts des banques centrales et du FMI s'étripent sur le nombre de milliards de dollars qu'il faudrait injecter dans l'économie pour venir au secours des grandes banques menacées de faillite, loin de leur monde, l'augmentation des prix du blé, du riz, du maïs et du soja fait basculer des millions d'êtres humains dans la famine. À l'agitation frénétique des courtiers en bourse répondent les émeutes de la faim, de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. La police et les troupes de l'ONU présentes dans le pays tirent sur les manifestants à Haïti. En Thaïlande comme aux Philippines, des gardes armés surveillent les rizières. Leur maison de fous est bâtie sur un volcan. Personne ne sait si la présente crise financière sera surmontée une fois de plus. Et surtout, personne ne sait à quel coût, avec quelles répercussions sur la production et avec quelles conséquences sur les classes populaires. Nous ne reprenons pas, dans le présent article, l'historique des enchaînements qui, de la crise de l'immobilier, puis de la crise des crédits hypothécaires, ont conduit à la crise du système financier mondial. Pas plus que nous ne revenons sur la place de la crise actuelle dans la longue chaîne des soubresauts qui se sont succédés depuis le début de cette période d'instabilité économique ouverte au début des années 70, CFLDC numéro 107, 109 et 111, respectivement d'octobre et décembre 2007 et janvier 2008. Disons seulement que, pour reprendre l'expression du directeur général de BNP Paribas, qui, comme tous les banquiers, a senti le vent du boulet, citation, « la crise des subprimes n'a été que l'étincelle qui a déclenché la crise financière ». Fin de citation. Rappelons que les subprimes sont ces crédits immobiliers placés en veux-tu en voilà aux États-Unis par les courtiers et les officines immobilières, relayés par les banques hypothécaires. Ils voulaient tous profiter du boom immobilier que ces crédits ont encore dopé. Mais la spirale spéculative a fini par exploser. Rappelons aussi que si ce krach dans l'immobilier américain n'est pas resté limité à ce secteur, c'est parce que les titres de créances risqués ainsi créés, revendus à des banques, ont été mélangés à d'autres crédits dans des opérations dites de titrisation. Puis, découpés en tranches, ils ont donné naissance à d'autres titres, fort prisés par les banques comme par les fonds de placement, car ils rapportaient gros en peu de temps. Sur la spéculation immobilière, s'est ainsi greffée une autre spéculation plus fluide, plus lucrative et plus risquée. Les titres qui en étaient le support se sont effondrés avec le krach dans l'immobilier, perdant d'un seul coup toute valeur. Cet effondrement brutal, en transformant en vulgaire chiffon de papier les titres liés aux prêts hypothécaires, a affecté un grand nombre de banques et d'institutions financières un peu partout dans le monde. Toutes avaient une quantité plus ou moins grande de ces papiers dans leur capital. Du coup, chaque banque, bien placée pour savoir qu'une partie de ses réserves de liquidités était constituée de titres pourris, s'est mise à se méfier des titres des autres. Cette méfiance, en se généralisant, a donné un coup de frein brutal aux échanges de liquidités, c'est-à-dire aux prêts et aux remboursements quotidiens qui font l'essentiel de la vie des banques. Voilà comment la crise dans l'immobilier américain est devenue une crise financière et bancaire mondiale. Le dégât des banques. Cette crise, même limitée à ses aspects financiers, a déjà fait des dégâts considérables. Les estimations des pertes des banques, publiées au fil du temps, n'ont pas cessé d'augmenter. En septembre-octobre 2007, on parlait de 100 milliards de dollars perdus. Puis à partir du mois de janvier 2008, ont commencé à être publiés les bilans des grandes banques. 21 milliards de dollars perdus par l'américain Citigroup, 19 milliards par Merrill Lynch, 19 milliards par la Suisse USB. Mais ces chiffres sont périodiquement révisés et il y a des opérateurs financiers qui ne publient pas de chiffres, au point que les ministres de l'économie du G7 en sont à implorer les banques pour qu'elles daignent publier leurs pertes exactes afin d'évaluer les dégâts pour savoir combien il en coûtera de venir à leur secours. Fin mars, on en était de 300 à 400 milliards de dollars envolés. Et voilà que le FMI a publié, dans les premiers jours d'avril, ses propres estimations, appuyées sur des bilans affichés. 565 milliards de dollars de pertes directement imputables aux prêts hypothécaires américains. 380 milliards de pertes imputables à des dépréciations sur d'autres titres liées à la crise. 945 milliards de dollars au total, pas loin de 1000 milliards que d'autres prévisions dépassent allègrement. Leur problème le plus urgent n'est cependant même pas comment éponger les pertes, mais comment faire redémarrer le système financier. La méfiance est généralisée à la multitude d'entreprises, officines, institutions qui opèrent sur les marchés financiers, fonds de placement, sociétés d'assurance, agences de notation, instituts de référencement de crédit, etc. En n'oubliant pas que la plupart d'entre eux opèrent non seulement avec leurs propres capitaux et les crédits accordés par les banques, mais aussi avec l'argent des entreprises. Comment surmonter cette méfiance ? La crise financière actuelle est la 24e depuis la grave crise des changes de 1971, qui avait sonné le glas du système monétaire international stable basé sur le dollar et réglementé par les accords de Bretton Woods, 1944. Certaines de ces crises ont pris la forme d'un krach boursier, d'autres celle d'une crise portant sur le change entre différentes monnaies, d'autres ont été des crises bancaires, d'autres enfin un mélange de tout cela, se traduisant à la fois par un écroulement des cours de bourse, par une crise monétaire et par une crise du crédit, tant les aspects boursiers ou monétaires sont entremêlés dans le monde de la finance. Certaines de ces crises financières sont restées limitées à une zone du monde, comme la crise de la dette des pays pauvres en 1982, ou plus récemment, les crises financières en Asie en 1997, au Brésil en 1998, celle de la dette russe la même année, ou encore celle en Argentine en 2001. D'autres, comme la crise en 1974 de la banque Erstat, ou en 1986 celle des Savings and Loans américains, ou encore du fonds spéculatif américain LTCM en quasi-faillite en 1998, ont été circonscrites à une ou à un ensemble de banques. L'éclatement de la bulle spéculative japonaise en 1989 a été suivi d'une longue, une dizaine d'années, et très coûteuse crise du système bancaire de ce pays. Les conséquences de l'effondrement de la bourse américaine en 1987 ou l'éclatement de la bulle boursière Internet en 2000 se sont en revanche répandues sur toute la planète. Aucune de ces crises n'a cependant débouché sur une crise économique généralisée analogue à la Grande Dépression qui avait suivi le krach boursier américain de 1929. Mais rien que par les pertes strictement financières, chacune de ces crises a vu s'envoler en fumée une quantité plus ou moins importante de milliards de dollars. Et plusieurs d'entre elles ont entraîné des contre-coups plus ou moins graves dans la production de biens réels. Pour chacune, on a pu mesurer les dégâts qu'elle avait provoqués qu'une fois qu'elle fut surmontée. Mais à chaque fois, la question s'est reposée de l'éventualité d'une généralisation incontrôlable. Si les crises financières, comme les crises tout court, accompagnent toute l'histoire du capitalisme, leur fréquence s'accroît depuis l'effondrement du système monétaire international au début des années 70. Accuser la seule mondialisation, avec ce que ce mot implique dans le vocabulaire d'aujourd'hui de déréglementation, de libre circulation des capitaux, non seulement d'un pays à l'autre, mais d'un secteur à l'autre, comme le font certains altermondialistes, c'est dissimuler l'essentiel. Les crises économiques font partie du fonctionnement même du système capitaliste. Elles sont un élément fondamental dans un fonctionnement anarchique où la production comme les comportements économiques sont le fait de myriades d'entreprises en concurrence les unes avec les autres et où les régulations entre l'offre et la demande entre différents secteurs ne peuvent se faire qu'après coup, de façon plus ou moins dramatique, par les crises justement. Les crises financières engendrées par la spéculation ont elles aussi un long passé, depuis celle portant sur les bulbes de tulipes en Hollande en 1620, en passant par celle des émissions de papier par la Banque royale de John Law sous la Régence, c'est-à-dire la minorité de Louis XV. En revanche, il est vrai que l'évolution des 30 dernières années, combinant la forte et incessante croissance de la sphère financière avec la déréglementation généralisée, a rendu les marchés financiers plus erratiques et les crises plus fréquentes. D'un système bancaire réglementé à la déréglementation généralisée. Dans la phase précédente de l'histoire de l'économie capitaliste, commencée, disons, dans les années qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale, pour préparer précisément celle-ci, puis poursuivie au lendemain de la guerre, pendant la période de reconstruction, et prolongée jusqu'à la fin des années 60, les marchés financiers étaient relativement réglementés. Les trois marchés, celui des actions avec la bourse, celui des assurances avec les compagnies d'assurance et celui du crédit avec les banques, étaient distincts les uns des autres et compartimentés, avec pour chacun ses propres règles prudentielles et son autorité de régulation et de tutelle. En outre, les banques de dépôt étaient distinctes des banques d'affaires. Les banques servaient d'intermédiaires entre ceux qui fournissaient de l'argent et ceux qui avaient besoin de financement, et en avaient en principe le monopole. Avec la déréglementation, les cloisonnements disparaissent et n'importe quelle entreprise peut se transformer en banque, ou du moins en faire office, sans être soumise aux règles prudentielles. N'importe quelle catégorie de capitaliste peut opérer directement sur le marché financier, y prêter de l'argent ou en emprunter, émettre des titres, en acheter. En contrepartie du risque que les banques assument, celui par exemple de ne pas être remboursées, elles facturent leurs services. Elles sont en revanche censées garantir le remboursement aux déposants d'argent qui leur fournissent les fonds qu'elles prêtent. Pour couvrir le risque lié au crédit, sans mettre en péril les dépôts de leurs clients, les banques doivent avoir des fonds propres, un capital. Emprunter directement sur le marché financier est, pour une entreprise capitaliste, moins cher mais plus risqué. Depuis les déréglementations des années 80, les marchés financiers se sont, dans une large mesure, substitués aux banques commerciales traditionnelles. Il faut cependant nuancer ce recul du rôle des banques en tant qu'intermédiaires entre les déposants et les emprunteurs. Les banques sont les premières à créer des filiales spécialisées dans la spéculation et échappant à la réglementation concernant les banques. En outre, l'affaire Kerviel, du nom de ce courtier de la Société Générale, qui a pu lui faire perdre 5 milliards d'euros sans même que la direction s'en rende compte, relativise l'efficacité de la régulation, même pour les établissements bancaires traditionnels. Dominique Plion, économiste du Centre d'analyse stratégique qui a succédé au commissariat au plan, constate que depuis les années 2000, la fréquence des crises est voisine de celle de la période de l'entre-deux-guerres, celle justement des années de la grande crise. Conséquence de l'hypertrophie étouffante de la finance sur l'économie, ces convulsions financières en deviennent un facteur aggravant. Les moyens utilisés pour sortir de la crise en cours deviennent un élément de la crise suivante. À peine la spéculation portant sur un secteur de l'économie s'effondre-t-elle qu'elle se porte sur un autre secteur, alimentant un nouveau boom, finissant dans un nouvel effondrement. Mais au fond, en regardant rétrospectivement les crises financières périodiques depuis 1971, si une vision optimiste ferait dire que jusqu'à aujourd'hui, on a échappé à une crise brutale ressemblant à celle de 1929, le coût de cette succession de crises se rapproche, sur le plan financier, sinon sur le plan social et politique, de celui de la crise de 1929. Par-delà la variété des formes que ces crises ont prises, la variété aussi de leur localisation ou de leur étendue, 24 crises financières en 37 ans. Cela fait, sinon tout à fait une crise par an, du moins en moyenne quelques deux crises tous les 3 ans. La méfiance sur les marchés financiers et les potions des États pour la conjurer. La panique boursière des derniers jours d'octobre 1929 s'était transformée en crise bancaire, poussant à la faillite les banques les plus fragiles. Devant la profondeur de la crise, l'effondrement de la production, les États avaient fini par intervenir pour sauver une économie capitaliste en péril. De l'économie allemande sous le nazisme au New Deal de Roosevelt, le capitalisme ne s'en serait pas sorti sans les béquilles étatiques dans un premier temps et la guerre dans un second. Dans la crise présente, les États sont intervenus pour ainsi dire immédiatement. En premier lieu, la Banque centrale américaine, Fed, le système bancaire américain étant l'épicentre de la crise. 7 fois de suite, la Fed a baissé ses taux d'intérêt, représentant une diminution totale de 82% du loyer auquel les banques privées pouvaient lui emprunter de l'argent. Mieux, en prêtant dans des conditions exceptionnellement favorables à toutes les banques qui lui en faisaient la demande, la Fed a injecté plusieurs centaines de milliards de dollars dans le système bancaire. Elle a fourni aux banques privées les liquidités dont elles avaient besoin et qu'elles ne voulaient pas se fournir les unes aux autres. Et chose exceptionnelle dans le système bancaire américain, la Fed a ouvert tout grand ses guichets non seulement aux banques commerciales auprès desquelles la banque centrale est normalement le prêteur de dernier recours, mais aussi aux banques dites d'investissement. Celles donc qui sont spécialisées dans les placements et la spéculation, y compris les plus puissantes d'entre elles, comme Goldman Sachs, Merrill Lynch, Lehman Brothers. Le montant total de ces prêts perfusion est estimé pour les États-Unis à plus de 400 milliards de dollars. La Banque centrale européenne, BCE, plus prudente sur ses taux d'intérêt, a de son côté largement ouvert ses guichets pour dépanner les grandes banques à court de liquidités. Un crédit pratiquement illimité leur est ouvert. Ces prêts à fonds perdus ont permis aux banques de continuer à fonctionner, mais pas de rétablir la confiance du marché financier, ou plus précisément la confiance de ceux qu'on appelle les investisseurs. Par cet euphémisme, il faut comprendre tous ceux, banques, fonds de placement, sociétés d'assurance, grosses entreprises ou riches particuliers, qui n'investissent pas, mais qui cherchent des placements rentables pour leurs capitaux. Les guichets grands ouverts des banques centrales et les centaines de milliards injectés dans l'économie n'ont cependant pas suffi à rétablir la confiance. Il faut dire que les grandes banques mettent du temps à révéler au compte-gouttes les montants de leurs pertes. À chaque estimation, le montant des pertes était majoré. Tout cela a alimenté la suspicion. La titrisation et le mélange du crédit risqué et du crédit fiable était destiné au départ à limiter les risques. C'est l'inverse qui s'est passé. C'est la cuillerée de goudron qui a gâté le tonneau de miel. D'autant que du goudron, il y en avait plus qu'une cuillerée.
Et quant au miel, il n'était déjà pas très pur à l'origine. Pire, la méfiance à l'égard des titres pourris contenant des parts de crédit hypothécaire américains a suscité une méfiance qui est allée en se généralisant vis-à-vis d'un nombre croissant de titres. En gonflant depuis 20 ou 30 ans, le système financier a multiplié les titres plus ou moins spéculatifs et plus ou moins risqués. Le temps est révolu où l'écrasante majorité des titres en circulation était composée soit d'actions représentant une part de propriété d'une entreprise et rapportant des dividendes, soit d'obligations représentant un prêt rapportant un intérêt, soit de titres émis par les États eux-mêmes représentant leur dette publique. Oh, il a suffi de ces trois sortes de titres pour que la spéculation finisse par provoquer le krach de 1929. Mais aujourd'hui, avec les produits dérivés, la palette de la spéculation est plus large. Ces produits dérivés ont été inventés à l'origine pour se protéger des variations inattendues du cours des actions, des taux de change, des prix des matières premières, etc. L'achat d'un produit dérivé donne le droit, ou impose l'obligation, d'acheter ou de vendre des actions, des devises, du blé ou du pétrole à une date ultérieure, mais au prix fixé aujourd'hui. Une belle invention pour se protéger de la spéculation, mais aussi pour spéculer. Il existe une multitude de ces produits dérivés. Les banques, les fonds de placement s'ingénient sans cesse à en inventer de nouveaux. Les papiers, ou plus exactement les données informatiques qui les représentent, circulent à la vitesse des signaux électriques. Ils constituent la matière première de ce que les banquiers appellent l'industrie financière. Une industrie qui ne produit rien, mais qui peut rapporter gros. Du moins tant que la spirale spéculative est montante. Spéculer à crédit. Les fonds spécialisés dans les placements ne spéculent évidemment pas avec leurs seuls capitaux, ni même avec ceux qui leur ont été confiés dans un but spéculatif par les entreprises ou par les particuliers. Ils empruntent de l'argent pour spéculer. Pendant toute une période où les taux d'intérêt des banques centrales étaient bas et où donc le loyer de l'argent était bas, il était profitable d'emprunter à 6% pour gagner 10%. Le volume total des crédits gonflait bien au-delà de ce qui était nécessaire pour la production. Pour doper leurs profits, les fonds spéculatifs empruntaient massivement, jusqu'à 15 fois leur propre mise, parfois plus, CF Le Monde du 3 avril 2008. Le quotidien Les Échos rapporte même le cas de ce fonds de placement qui, avec le renchérissement du crédit, vient de rouler au tapis. Pour chaque dollar de fonds propres, il avait 31 dollars d'endettement. La revue économique sociétale constate, citation, qu'aux États-Unis, le volume des crédits bancaires déflatés de l'inflation évolue sur la tendance de 7% par an, à comparer avec une croissance du PIB réel qui dépassera à peine 2% en 2007. En zone euro, la croissance des prêts au secteur privé est d'environ 8% en termes réels pour une progression du PIB de 2,5%. Fin de citation. Ce qui signifie, au-delà du caractère fortement approximatif de ces chiffres, que la croissance du volume des crédits est déconnectée de celle de l'activité productive et que l'écart se creuse d'année en année entre la part du crédit qui sert à financer la production et celle qui sert à financer les opérations financières, en faveur bien sûr de ces dernières. Les rachats des entreprises, les unes par les autres, dans les grandes opérations de fusion-acquisition, font partie de ces opérations financières, financées à crédit, souvent par des titres plus ou moins risqués, qui sont aujourd'hui objet de suspicion. Ainsi donc, la crise de confiance dans les banques et entre les banques freine, quand elle ne bloque pas, les opérations financières. Les capitaux qui ne peuvent pas s'investir dans les bons du Trésor américain ou dans les matières premières se déplacent d'action en action, d'obligation en obligation, au hasard des dernières nouvelles, des dernières décisions de telle banque centrale et des conséquences supposées de ces décisions, ou au hasard de la publication des bilans des banques ou des grandes entreprises, au hasard même des rumeurs. C'est cette situation qui conduit au soubresaut erratique de la bourse. Profits privés et pertes socialisées. Après un premier trimestre 2008 marqué par cette variation fébrile sur les marchés financiers, alimentant un noir pessimisme parmi les commentateurs de l'économie, voici que, dans les premiers jours du mois d'avril, la tonalité a changé. L'hebdomadaire économique Challenge titre en une « La crise est finie » pour expliquer, dans un dossier, « Bourse, la fin du krach ». Et de s'écrier, dans un article dithyrambique à l'égard de Ben Bernanke, président de la Banque centrale américaine, « Merci Ben ». Il faudra évidemment aux banquiers et aux autres PDG de fonds de pension autre chose que la méthode Coué pour être persuadé qu'on est sorti du creux de la vague. Pendant quelque temps, cependant, l'optimisme de cette publication a été partagé par bien des devins qui scrutent au jour le jour l'évolution du marché financier mondial pour tenter d'en prédire l'avenir proche. Mais ce qui est significatif, ce n'est pas l'optimisme de la prévision, c'est ce sur quoi elle est fondée. Citation. Ben Bernanke a remis les marchés dans le bon sens. Fin de citation. Pourquoi donc ? Citation. La Fed a repris pour 30 milliards de dollars le portefeuille d'actifs de la banque Bear Stearns, contaminé par la crise des subprimes, avant que JP Morgan rachète l'établissement. C'est un exemple rare dans l'histoire financière du monde, affirme l'économiste. Et il ajoute, d'autre part, les Federal Home Loan Banks, les banques publiques régionales, ont racheté à un prix bas l'équivalent de 350 milliards de crédits subprimes aux établissements touchés. C'est à ces établissements publics qu'il appartient désormais de restructurer ces crédits et de supporter les pertes éventuelles. Fin de citation. En d'autres termes, l'initiative vraiment susceptible, pense-t-il, de rétablir la confiance du marché financier, c'est que la Banque centrale américaine ne se contente pas d'aider ponctuellement et occasionnellement les banques menacées de faillite, mais qu'elle accepte de racheter les obligations pourries qui en étaient la cause. L'État fédéral a en effet pris en charge les pertes de Bear Stearns, une des plus grandes banques américaines menacée de faillite, pour qu'une autre grande banque, Morgan Stanley, accepte de l'acheter. En Grande-Bretagne, le gouvernement a nationalisé de fait, avec rachat bien entendu, la banque anglaise Northern Rock. Deux des gouvernements qui affichent le plus férocement leur hostilité à l'étatisme n'ont donc pas hésité à faire intervenir leur banque centrale pour venir au secours de banques privées. Le Monde du 25 mars avait déjà rapporté une révélation du journal britannique Financial Times faisant état d'une concertation entre la Réserve fédérale américaine, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne qui auraient discuté d'une opération consistant à racheter tous les titres contaminés par les crédits immobiliers américains. Citation. Une solution radicale qui coûterait jusqu'à 3 000 milliards de dollars à l'État fédéral, ajoute le journal. La Banque d'Angleterre vient de faire le saut. Elle a annoncé le 21 avril que les établissements bancaires pourront se débarrasser de leurs crédits immobiliers auprès de la Banque centrale, qui, en échange, leur fournira des emprunts d'État. Cette possibilité d'échanger les titres pourris contre des titres garantis par l'État leur est donné pour une période entre 1 et 3 ans. Le coût total de l'opération est estimé à 50 milliards de livres, environ 60 milliards d'euros. Mais, a ajouté le gouverneur de la Banque centrale, cette somme n'est pas limitative et il pourra en coûter deux fois plus à l'État britannique. Du côté des États-Unis, la décision d'une mesure aussi générale et aussi radicale ne semble pas encore prise. D'après le journal Les Échos du 22 avril, un plan existe cependant proposant l'échange des titres pourris à concurrence de 200 milliards de dollars. Ce n'est pas encore le guichet ouvert jusqu'à épuisement des titres pourris. Cela viendra, cependant, peut-être, car il ne s'agit pas seulement de désarmer la méfiance généralisée, mais aussi d'enlever tout obstacle devant une reprise de la croissance du crédit bancaire et donc des opérations financières. C'est que, vestige des anciennes réglementations, les banques sont obligées d'intégrer dans leur bilan les pertes subies avec la dévalorisation des titres pourris. Toutes les grandes banques enregistrent de ce fait une diminution de leur capital propre. Or, les banques sont obligées de garder en réserve disponible un certain pourcentage des crédits qu'elles accordent. Dans le cas des banques américaines, par exemple, le capital propre d'une banque ne doit pas être inférieur à 10% du total des prêts qu'elle accorde. La diminution de leur capital se traduit donc, en quelque sorte mécaniquement, par une diminution du volume des crédits qu'elles peuvent émettre. Toutes les grandes banques sont en train de tenter de se recapitaliser, c'est-à-dire de faire appel à des capitaux extérieurs pour remplacer leurs titres sans valeur. Pour cela, elles font de plus en plus appel aux fonds souverains, c'est-à-dire à ces fonds de placement qui dépendent directement des États d'un certain nombre de pays dont le commerce extérieur est excédentaire et qui ont de l'argent à placer. Il s'agit en particulier de fonds mis en place par les Émirats du Golfe, Singapour ou, dans un autre ordre d'idées, par la Chine et la Russie. Les fonds souverains de ces deux derniers pays posent cependant des problèmes politiques aux dirigeants des États-Unis. En outre, leur apport ne suffit probablement pas à compenser toutes les pertes des grandes banques. Ce qui semble faire hésiter les dirigeants américains est que, lorsque la banque centrale américaine accepte de prendre en dépôt des titres pourris des banques privées en leur donnant en contrepartie des bons du trésor américain, elle mine son propre crédit et par conséquent celui du dollar. Une fois de plus, la solution entre guillemets pour surmonter une crise risque de déboucher sur une autre crise. D'après des statistiques américaines officielles, la composition des réserves de la Banque centrale américaine se serait déjà considérablement modifiée entre juillet 2007, c'est-à-dire juste avant que la crise financière l'amène à voler au secours des grandes banques privées, et avril 2008. Le montant de ces réserves n'a pratiquement pas varié. En avril 2008, il est de 919 milliards de dollars. Mais en juillet 2007, ces réserves étaient constituées à 87% de traites et obligations du Trésor, c'est-à-dire de bons papiers, garantis par l'État américain. En quelques mois, cette part s'est effondrée. Elle ne représente plus que 53% des titres détenus. Que s'est-il passé? La Banque fédérale a donné ses bons du Trésor, très recherchés, aux banques privées en difficulté, en échange de créances pourries contenant des parts de crédits hypothécaires qui ne valent plus rien. Mais du coup, près de la moitié des réserves de la Banque fédérale elle-même est constituée de titres pourris. Même si le Trésor des États-Unis peut fabriquer des bons du Trésor supplémentaires en alimentant l'inflation mondiale, la détention par la Banque centrale américaine d'une quantité colossale de titres pourris ne peut qu'alimenter la méfiance à l'égard du dollar. Déjà, un certain nombre de pays du Golfe, producteurs de pétrole, pourtant liés aux États-Unis et dont la monnaie est liée au dollar, renâclent devant la perte de valeur de celui-ci. Mais si la perte de confiance en la Banque centrale américaine s'aggrave, si la méfiance à l'égard du dollar se généralise, faisant hésiter les grands pays exportateurs comme la Chine à déposer leurs économies dans les banques américaines, cela peut déboucher sur une crise générale du système monétaire international. Accélération de l'inflation. La montée de l'euro est déjà une conséquence de la méfiance croissante à l'égard du dollar et des déplacements spéculatifs de capitaux d'une monnaie à l'autre. Mais si l'euro peut servir d'alternative momentanée pour diversifier les réserves de change de pays comme la Chine ou l'Inde, Il est difficile d'imaginer que la monnaie européenne puisse prendre complètement la place du dollar en tant que monnaie internationale, ne serait-ce que pour des raisons politiques. Derrière le dollar, il y a l'État le plus puissant du monde, le plus riche aussi. Derrière l'euro, il n'y a qu'un assemblage d'États, petits ou moyens, aux intérêts divergents, voire contradictoires. La perte de valeur du dollar est également un des éléments majeurs de l'inflation mondiale qui s'est accélérée depuis le déclenchement de la crise. Au moment des élections au Zimbabwe, toute la presse a mis en cause le vieux dictateur Mugabe et sa responsabilité dans la situation économique de son pays, et notamment dans cette inflation de la monnaie locale qui est à 6 chiffres, 100 000% et plus. Mais les pays impérialistes, même les plus grands, ne sont pas à l'abri. Rappelons que le premier pays atteint par une inflation du même ordre a été l'Allemagne des années de la Grande Crise. Conséquences sur l'économie productive. Des conséquences, il y en a déjà. Rien que la crise déclenchante, la crise de l'immobilier, se traduit par un recul important de la construction, des licenciements massifs dans ce secteur, sans parler de ce dégât collatéral aux États-Unis, qu'est la perte de leurs logements pour plus d'un million d'acheteurs, qui risquent d'être près de 3 millions, incapables au bout du compte de payer leurs traites. Il y a aussi les suppressions d'emplois dans les banques. Elles sont déjà en cours aux États-Unis. Plus de 10% des employés de banques sont menacés. Et pour la suite, une des têtes pensantes du monde capitaliste, Alan Greenspan, l'ancien président de la Banque centrale américaine, évoque la crise économique la plus grave depuis la guerre. Et Soros, l'ancien gourou de la spéculation, aujourd'hui à la retraite, de remonter plus loin encore. Citation: nous n'avons pas encore touché le fond. Cette crise est la pire que l'on ait jamais connue depuis 1930. Fin de citation. Et d'observer dans la même interview que, citation, cette crise est venue de produits dont j'ignorais l'existence. Fin de citation. Remarque ô combien significative, venant d'un homme orfèvre en spéculation et qui n'est à la retraite que depuis une petite dizaine d'années. Même lui n'arrive pas à suivre la multiplication éruptive des produits financiers. De son côté, l'ancien économiste en chef de la grande banque américaine Morgan Stanley parle, citation, d'une crise profonde allant au-delà du seul subprime. Fin de citation, rapportée par les Échos des 4 et 5 avril 2008. Et le banquier, poète à ses heures, d'ajouter, citation, celui-ci, le subprime, ne serait que l'élément annonciateur de temps difficiles, un peu à la manière des canaries sentinelles que les mineurs emmenaient au fond des puits et qui cessaient de chanter aux premières vibrations inaudibles à l'oreille humaine et aux premières émissions de gaz annonciatrices de coups de grisou. Fin de citation. De toute évidence, pour lui, le coup de grisou n'est pas derrière mais devant nous. Ce qui différencie en effet la crise financière actuelle n'est pas seulement le fait que le montant des pertes est d'ores et déjà parmi les plus importants de la vingtaine de crises financières qui l'ont précédé depuis 1991. Plus important encore, si certaines de ces crises ont déjà touché les États-Unis, elles sont restées limitées ou à la seule bourse ou à un secteur bancaire circonscrit, tel le système américain des caisses d'épargne. Les crises financières précédentes graves, comme celles qui ont touché l'Argentine en 2001 ou l'Asie du Sud-Est en 1997, ont frappé des pays qui ont certes un poids dans l'économie mondiale, mais qui ne sont pas des pays impérialistes. La crise bancaire japonaise, atteignant cette fois une économie impérialiste, a été jusqu'à présent la seule à avoir entraîné des pertes comparables à celles de la crise actuelle. Elle a été très longue à surmonter, mais elle est restée pour l'essentiel cantonnée au Japon. Mais cette fois-ci, la crise est partie du cœur même du système impérialiste mondial. Elle a commencé à se généraliser à partir de là. Et personne ne peut imaginer, malgré la méthode couée des dirigeants politiques, qu'elle ne touchera pas l'Europe. Elle l'a d'ores et déjà touchée, car dans le peloton de tête des banques, qui ont le plus perdu dans la dévalorisation des titres liés au crédit hypothécaire américain, il y a la Suisse USB et des banques allemandes, françaises et britanniques. Les conséquences directes ou indirectes de la crise financière freinent déjà l'économie productive de plusieurs manières. Par de plus grandes difficultés pour les entreprises à obtenir du crédit d'un système bancaire devenu plus prudent avec le krach. Pour les entreprises européennes, la montée de l'euro par rapport au dollar en enchérissant le prix des produits vendus sur le marché européen agit comme une véritable barrière protectionniste dressée contre les exportateurs européens. En atteignant le taux de change de 1 euro contre 1,60 $, l'euro a pratiquement doublé sa valeur depuis 2000, ou plus exactement, le dollar s'est déprécié dans cette proportion. Déjà apparaissent les premiers signes d'un ralentissement du commerce mondial. Et il y a les contre-coups du déplacement de la spéculation vers des matières premières, et en particulier vers le pétrole. Avant même le déclenchement de la crise des subprimes, le prix du pétrole avait tendance à augmenter, fondamentalement pour les mêmes raisons que lors des premiers chocs pétroliers. Les trusts pétroliers, n'ayant pas l'intention de procéder à des investissements massifs, ni dans l'exploitation de gisements plus difficiles d'accès, ni dans des raffineries nouvelles, ont fait, une fois de plus, le choix d'une politique malthusienne, c'est-à-dire freiner la croissance de leur production, mais se rattraper sur les prix, ne pas vendre plus, mais vendre plus cher. Et les spéculateurs, chassés du placement hypothécaire par le krach immobilier, sont tout naturellement incités à placer leurs capitaux dans le pétrole. Mais leur spéculation à la hausse a accéléré celle-ci. Le renchérissement du pétrole et de ses dérivés, ainsi que du gaz dont le prix est indexé sur le pétrole, ont déjà des conséquences graves sur les déplacements, sur les transports, sur le chauffage des classes populaires. Dans les pays très pauvres, où la masse de la population ne dispose pas de voitures, celle-ci paye quand même la facture avec le renchérissement des prix des transports collectifs. Mais les entreprises elles-mêmes en subiront les contre-coups. C'est déjà le cas pour les transporteurs routiers, pour les compagnies d'aviation. L'une d'entre elles, une compagnie dite low cost, vient de faire faillite, mais aussi pour les entreprises aéronautiques. Et bien d'autres secteurs économiques suivront. Les premiers chocs pétroliers des années 70 se sont traduits à l'époque par un franc recul de la production. Flambée des prix des matières premières. Rappelons-le, une des conséquences les plus dramatiques de la crise financière sur la vie réelle est le renchérissement des prix des produits alimentaires à l'échelle du monde. Le mécanisme est, dans les grandes lignes, analogue à ce qui se produit pour le pétrole et pour d'autres matières premières industrielles. Pour une multitude de raisons, dont nous ne discuterons pas ici, mais qui, contrairement aux mensonges qu'on nous raconte, tiennent plus à l'organisation capitaliste de l'économie mondiale qu'à des raisons naturelles, l'offre de blé, de maïs, de riz ou de soja sur les marchés mondiaux équilibre de justesse la demande solvable, la seule qui compte dans l'économie capitaliste. On peut donc en déduire que les prix de ces produits agricoles auront tendance à augmenter. Les perspectives réelles ou supposées des agrocarburants renforcent évidemment cette conviction. Du coup, une partie des capitaux spéculatifs se porte vers ces produits agricoles, ou plus exactement, vers les titres qui les représentent. Le Figaro du 15 avril 2008 rapporte l'agitation frénétique des fonds de placement à la bourse de Chicago, qui est le principal marché planétaire des produits agricoles. Citation. À Chicago, les spéculateurs s'en donnent à cœur joie. Ils sont aux côtés notamment quelques 25 produits agricoles, comme le soja, le maïs, le blé, la viande de porc et même le bétail vivant. Vous avez dit spéculation alimentaire ? En tout cas, les contrats de soja, plus 61% d'huile de soja, plus 64% et de blé, plus 53%, affichent les plus fortes hausses de volume de transactions. On y voit en partie le résultat de la présence croissante de fonds alternatifs, les fameux hedge funds. Agissant pour le compte d'institutionnels ou de grandes fortunes, leur métier est de profiter des déséquilibres entre l'offre et la demande sur tout type de marché. Déçus par le rendement des actions depuis le début de la décennie, un nombre croissant de fonds se sont portés sur les marchés agricoles où plusieurs conditions leur paraissent réunies pour réaliser de belles plus-values. Fin de citation. Sur cette spéculation en grand, résultant de l'activité des grands fonds de placement, se greffent à tous les niveaux d'autres spéculations, nationales voire locales. Stocker des produits alimentaires en période de pénurie, justement pour en faire augmenter les prix, fait sans doute partie des plus vieilles activités spéculatives. Même la Révolution française a connu ses accapareurs. Même dans les pays dits riches, la flambée des prix des matières premières agricoles se traduit par des conséquences sensibles pour les familles des classes populaires. Le président du Secours populaire, Julien Lauprêtre, constate une augmentation des demandes d'aide alimentaire de l'ordre de 15 à 20% et fait état, dans une interview accordée à l'Humanité du 24 avril, citation, de confidences terribles de gens amenés à fouiller les poubelles à la sortie des restaurants pour se nourrir. Fin de citation. Les conséquences sont autrement plus dramatiques encore pour ces quelques 800 millions de personnes des pays pauvres qui souffrent en temps ordinaire de sous-alimentation chronique. D'ores et déjà, la crise financière actuelle ne se limite pas au monde virtuel du système bancaire. Alors même qu'économistes et banquiers discutent gravement la question de savoir si les États-Unis sont déjà en récession, c'est-à-dire en crise économique, ou s'ils sont en train de s'y acheminer, la crise économique fait des victimes, et ce n'est en effet certainement pas fini. Une crise économique grave, cela signifie des milliers d'entreprises fermées ou fonctionnant au ralenti, des licenciements en masse, le chômage, la misère pour une grande partie de la population laborieuse. Il n'y a aucune catastrophe naturelle à l'origine de la catastrophe économique et sociale. L'économie capitaliste est en train d'étouffer, en réalité, dans sa propre graisse. Pendant des années, on a imposé aux travailleurs, au nom de la compétitivité, de plus en plus de travail et de plus en plus mal payé. Au nom de la modernisation, de la restructuration, on a réduit les effectifs pour faire faire plus de travail avec moins de travailleurs. Les conditions de travail deviennent de plus en plus dures, usant les travailleurs avant l'âge quand elles ne poussent pas au suicide. Les salaires sont bloqués et la précarité est généralisée. Toute cette aggravation de l'exploitation pour faire suer de plus en plus de profits que les possesseurs de capitaux n'investissent pas dans la production, c'est-à-dire dans la création d'emplois, mais dans des opérations financières spéculatives. Le présent qu'il nous impose est l'avenir qu'il nous prépare. Il est à la fois légitime et oiseux de se demander si la crise actuelle peut déboucher sur un nouveau 1929. Légitime parce que le pire est sans doute encore devant nous, et oiseux car nous sommes déjà dedans. Les soubresauts successifs de l'économie et les moyens utilisés par la bourgeoisie pour les surmonter ont déjà conduit à une dégradation considérable des conditions d'existence de la classe ouvrière. Par ailleurs, s'il n'y a pas eu, comme dans les quelques jours qui ont suivi le jeudi noir de 29, une panique boursière se traduisant par un effondrement de 30 ou 40% des actions, ni des faillites en chaîne de banques, les pertes cumulées des crises financières successives aboutissent à quelque chose de comparable. Bien sûr, les conséquences sociales et politiques n'ont pas été, du moins jusqu'à présent, comparables à la tragédie, conséquence directe de la crise de 1929, qu'ont été l'arrivée au pouvoir du nazisme en Allemagne, de régimes dictatoriaux dans une grande partie de l'Europe et l'écrasement de la classe ouvrière. Mais l'histoire ne se répète jamais exactement, et celle de la crise actuelle et de ses conséquences n'est pas encore écrite. Et faut-il insister sur les conséquences dramatiques des hausses de prix du blé, du riz, pour la population d'un grand nombre de pays pauvres? La hausse brutale des prix de ces produits alimentaires de base, provoquée par les achats des fonds de placement sur le marché agricole mondial, pousse des centaines de millions d'êtres humains déjà sous-alimentés vers la faim et vers la mort. Et il n'y a aucune raison pour que ceux qui spéculent sur les produits alimentaires, dans l'espoir d'une plus-value plus importante qu'ailleurs, s'arrêtent de leur plein gré. le sort des classes populaires des pays pauvres ne peut que s'aggraver. Et les grandes puissances impérialistes, malgré leurs gesticulations pseudo-humanitaires, ne donneront pas aux États de ces pays pauvres de quoi subventionner les produits alimentaires de base pour compenser les hausses de prix. Dans un contexte marqué à l'échelle du monde par le poids pris par des courants et des organisations réactionnaires, le mécontentement, la colère, risquent d'être canalisés par ces forces réactionnaires, intégristes religieux, fondamentalistes d'obédiences diverses ou au profit de tragiques divagations ethnistes ou clanistes. Le prolétariat est donc d'ores et déjà confronté aussi bien à la crise et à ses conséquences matérielles qu'à ses conséquences politiques. Il y est confronté sans organisation, sans politique propre et donc sans armes pour se défendre. Ce que l'on peut souhaiter, c'est que la crise elle-même et les menaces multiples qui en découlent se traduisent par la renaissance au sein du prolétariat de forces politiques communistes et révolutionnaires, capables de proposer aux masses la seule perspective où réside le salut, celle qui vise le renversement de l'ordre capitaliste mondial par l'expropriation des groupes industriels et financiers privés et la réorganisation de l'économie sur une base collectiviste. Rédigé le 24 avril 2008.